20h15 sur France Culture, Le Monde selon Caroline Forest. Bonjour Caroline. Vous voulez revenir sur l'émotion suscitée par l'image de ces policiers attaqués par des manifestants masqués 6 mois après les attentats.
Un gouffre entre le tout petit noyau de ceux qui ont bien ri en voyant cette vidéo de voitures de police en feu, poster des commentaires amusés, des tonnes de smileys, une pancarte poulet rôti, et la foule de ceux bien plus nombreux qui trouvent cette violence aussi stupéfiante qu'indécente. Faut-il vraiment rappeler qu'il y a 6 mois à peine, des policiers se trouvaient sous le feu de balles terroristes et qu'on y laissait 130 corps ? Faut-il vraiment rappeler que les forces de l'ordre peuvent être tirés à tout moment comme des lapins par des terroristes en cagoule, qu'ils sont déjà bien assez épuisés par des milliers d'heures supplémentaires pour ne pas avoir à jouer à Kung Fu Panda avec de faux rebelles à capuche, se croyant revenus au bon vieux temps de mai 68 ou de la Commune. Car hélas, hélas, nous ne sommes ni en mai 68, ni au bon vieux temps de la Commune, mais nous sommes en 2016. Et en 2016, la police a déjoué 7 tentatives d'attentat depuis un an. On s'attend à tout moment à des tirs dans la foule, chaque rassemblement est un enfer à sécuriser, et l'euro qui s'annonce, eh bien, à tout d'une partie de football à haut risque. Et c'est à cause de ce risque qu'il a fallu prolonger l'état d'urgence. Il n'empêche pas de manifester tous les soirs, si on veut, contre la loi travail ou les violences policières qui existent et se multiplient. Mais rien, absolument rien, ne justifie de s'en prendre physiquement aux gardiens de la paix, qui plus est quand la paix est autant menacée.
Mais alors justement, Caroline, comment expliquer l'explosion de l'unité nationale qui existait il y a encore 6 mois ?
Le gouvernement porte clairement une part de responsabilité. Quand on prend des mesures à la limite de la démocratie pour lutter contre le terrorisme, eh bien, on ne peut pas se permettre de fracturer en plus le pays pour des raisons électorales ou sociales. La loi El Khomri est une loi incendiaire, propre à enflammer la gauche. Elle ne pouvait passer qu'avec un bras de fer et en force. Or, même s'il est prévu par nos institutions, eh bien, la violence symbolique d'un 49-3 vient s'ajouter aux mesures autoritaires déjà prises au nom de l'état d'urgence. À un an d'une présidentielle aussi déprimante en l'absence de perspective politique, cette stratégie de l'ultra-fermeté républicaine ne pouvait qu'exciter et ranimer un vieux rêve de gauche révolutionnaire ou anarchiste, de celle qui a prouvé déjà qu'on pose des bombes aux terrasses des cafés sous la Troisième République, en tonnant contre les lois scélérates et une classe politique éclaboussée par le scandale de Panama. Alors par chance, à notre époque, c'est surtout le FN qui apparaît dans les Panama Papers, et la gauche républicaine reste largement majoritaire. Mais le Premier ministre qui souhaite l'incarner doit rassurer sur sa capacité à défendre autant la République que la démocratie, en respectant davantage les contre-pouvoirs et son aile gauche.
Sauf que sur son aile droite, justement, le gouvernement est accusé de mollesse.
Et oui, c'est ce qu'on a entendu sur toutes les chaînes en boucle le soir de l'attaque contre la voiture de police. Le Front National, qui explose dans les intentions de vote des policiers, avait micro ouvert, parfois sans contradicteur, pour accuser le gouvernement de ne rien faire, alors qu'il vient quand même de prolonger l'état d'urgence, de procéder à des centaines d'interpellations et qu'il en est à assigner à résidence plusieurs manifestants pour l'interdire de manifester, parfois sur des bases juridiques assez fragiles. Parmi les 4 suspects arrêtés dans le cadre de l'enquête sur l'attaque contre la voiture de police, 3 avaient fait l'objet d'une interdiction de paraître dans les manifestations, mais leurs arrêtés ont été cassés par le tribunal administratif. Alors on a vu le résultat, reste que malgré ces défauts, ça s'appelle des contre-pouvoirs. Et c'est la preuve que nous ne vivons pas en dictature, contrairement à ceux qui croient défier un pouvoir quasi-fasciste. Les fascistes, les vrais, ne sont pas encore au pouvoir en France. Si on les écoutait, il faudrait mettre en prison toute personne turbulente de façon préventive et dissoudre l'ultra-gauche par principe. Bien sûr, cette droite radicale ou d'autres à droite ne tenaient pas du tout le même discours lorsque la police interpellait les opposants ultra-violents au mariage pour tous. Et par un heureux hasard de la mémoire et de sa reconstruction, cela ne se souvienne aujourd'hui que de gentils veilleurs assis en silence, plus du tout des hommes en capuche, rouant de coups les journalistes ou attaquant les forces de police avec la même férocité que leurs clones d'extrême gauche. Décidément quand même, les extrêmes sont faits pour s'entendre. En l'occurrence, l'image de cette voiture de police brûlée par des nervis d'extrême gauche va régaler l'extrême droite. Et encore, miracle républicain, le principal agresseur était blanc et le policier agressé, impeccable de professionnalisme, était noir. Interviewé depuis la Martinique sur l'attaque contre son fils et les images qui l'ont choqué, sa mère a déclaré « En voyant ces images, j'ai beaucoup pensé à Clarissa Jean-Philippe, la policière tombée sous les balles d'Amedi Coulibaly ». Cette phrase en dit long sur le traumatisme et le ressort d'un pays qui n'a plus envie de frayeurs ou de larmes inutiles, mais désespérément besoin d'unité.